On va reprendre, on en est à la diapositive 112, 113. Et j'ai à peu près une demi-heure devant moi avant de laisser la parole à Olivia. On vit dans un monde qui est complexe, avec des gens compliqués. Vous êtes très compliqués, et je suis très compliqué. C'est difficile de comprendre comment on agit, pourquoi on agit, comment le monde fonctionne. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu cette image-là, qui nous parle du regard qu'on porte sur le monde, notre vision du monde, et la façon dont on va comprendre le monde, la façon dont on va comprendre l'homme est déterminante parce qu'elle va définir le modèle de relation d'aide qu'on va appliquer. Si je pense que l'homme n'est qu'un corps, par exemple, et que toute sa vie ne se résume qu'à une succession de réactions chimiques, ben je vais me contenter de cibler les besoins physiques, physiologiques du corps. Et c'est le médecin, le docteur en médecine, que je vais aller voir, quels que soient les problèmes que je rencontre. Mais si je crois que l'homme n'est pas qu'un corps, alors il y a tout un tas d'autres possibilités qui vont m'amener à changer la façon de voir la relation d'aide. Parce que je vais devoir m'intéresser aussi à la vie intérieure. On avait vu aussi ces deux hommes, l'un qui porte une Bible, l'autre qui porte le présupposé qu'il n'y a pas de Dieu, et qui, moqueur, dit à l'autre, « Ah, vous, les créationnistes bibliques, vous avez un point de vue tellement biaisé quand vous regardez aux preuves, vous devriez essayer d'être plus objectif comme moi. » La Bible nous encourage à avoir une juste vision de nous-mêmes. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous encourage à ne pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Alors, quelle est l'opinion que j'ai de moi? Ça, c'est une question qui est très intéressante. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Qu'est-ce que je pense de mon prochain? Qu'est-ce que je pense au sujet de l'homme? Alors, si vous réfléchissez, si vous prenez vraiment le temps de réfléchir à cette question, vous devriez vous apercevoir que le regard que vous portez sur vous-même est, en général, très influencé par le regard des autres, par ce que les autres pensent ou disent de moi. Mais qu'est-ce que l'homme? Alors, on va faire un peu d'anthropologie biblique. C'est pas un cours complet d'anthropologie biblique, il nous faudrait beaucoup plus de temps que ça, mais au moins un survol. On va essayer de définir ce que la parole de Dieu veut dire quand il est écrit que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pas très très évident de comprendre ce sujet-là. Apparemment, ça n'est pas une question physique. La parole de Dieu dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, ce n'est pas une question physique parce que Dieu est esprit et donc il n'a pas de corps. Mais l'homme a la capacité, comme Dieu, de faire des choix moraux qui l'orientent vers le bien ou vers le mal. L'homme a la capacité, comme Dieu, de raisonner en ce sens, sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Il y a aussi, dans cette création à l'image de Dieu, un aspect dominateur. Dieu est le grand souverain et il a donné à l'homme la mission d'être un souverain sur sa création. Adam était créé pour être le roi, quelque part, hein, de la terre, dominer sur sa création. C'était l'ordre explicite de Dieu. Et ça, on voit que c'est une caractéristique que Dieu partage. Dieu nous a créés aussi pour être relationnels. Et ça, c'est très important parce qu'en Dieu, il y a de la relation. Il est un et il est trois. Donc l'homme a été créé pour être en relation avec Dieu et avec ses semblables. Et Dieu nous a créés aussi pour être responsables. Responsable, ça veut dire qu'il va répondre d'eux. C'est ça un responsable. C'est quelqu'un à qui l'on confie une responsabilité et on lui demande de faire ensuite un compte rendu, de rendre compte de la responsabilité qui lui a été confiée. Et Adam a eu une responsabilité confiée, plusieurs, prendre soin du jardin, le garder, l'entretenir, le cultiver. Et c'était assorti d'une recommandation, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Quand on parle de l'image de Dieu, oui. Pour revenir à la racine hébraïque du mot, c'est beaucoup plus précis parce que l'image, elle a trait à l'ombre qui est dans sa doctrine. L'image de Dieu, c'est oui. Jésus. Et le mot hébreu, c'est Salah, c'est-à-dire la croix. Et l'image de Dieu, c'est juste la croix.
Merci, ah, j'ignorais.
Pour retrouver les racines du mot, pour comprendre la profondeur de la racine.
Merci pour cette information que j'ignorais.
Après Adam, il n'a pas fait. On a été créé à l'image d'Adam, puis à l'image de Dieu.
Oui, oui, après nous. Mais nous restons quand même créés à l'image de Dieu. Dans l'épître de Jacques, il est écrit que nous pouvons faire du mal, penser du mal, dire du mal des personnes qui ont été créées à l'image de Dieu. Donc nous portons encore en nous-mêmes l'image de Dieu, même si cette image a été singulièrement déformée, tordue et bafouée. À la femme, Dieu a confié la mission d'être le vis-à-vis de son mari. Et puis on lit dans l'Épître aux Éphésiens que nous sommes l'ouvrage de Dieu et que nous avons été créés, recréés en fait en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. L'homme est un être créé par Dieu. Et ça, c'est important. Ça peut paraître anecdotique, mais nous sommes une créature. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Nous ne sommes pas apparus par génération spontanée, ni par le résultat d'une longue évolution. La Bible à laquelle nous prêtons allégeance nous montre le modèle d'une création divine en 7 jours solaires, ex nihilo, à partir de rien, et par la seule puissance de la parole de Dieu. Donc nous sommes des créatures, nous sommes créés avec un corps, c'est-à-dire une limite physique qui nous impose d'être dans un seul endroit en même temps. En parlant de ce corps, David le décrit comme une créature merveilleuse. Dans le psaume 139, je suis une créature merveilleuse et nous aurons toujours un corps. Même dans l'éternité, nous aurons un corps. Parce que ce corps va être ressuscité. Certainement. Il aura une autre forme, peut-être. La Bible n'est pas très très explicite sur ce sujet-là. Mais nous aurons un corps. Alors, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais une nouvelle terre avec une nouvelle Jérusalem dont les descriptions physiques dépassent les limites de la physique qu'on connaît aujourd'hui. Parce que l'or transparent, un physicien va avoir un petit problème avec ça. On est aussi des êtres immatériels, il y a une partie immatérielle en nous. Comment est-ce que la Bible l'appelle cet être immatériel ? L'esprit, l'âme, la pensée, le cœur. Comme moi, il y a une multitude de dénominations pour parler de cet être intérieur. Ces parties, elles ne sont pas faciles à distinguer l'une de l'autre et il n'est pas dit que ce soit à nous de les distinguer. Ces parties-là. C'est la parole de Dieu qui fait la distinction entre âme et esprit, dit Hébreux 4:12. Donc nous pouvons dire, oui, parce que la Bible le dit, que nous sommes créés en 3 parties, esprit, âme et corps, mais en ce qui concerne la partie immatérielle, l'esprit et l'âme, pas toujours évident. Il y a des fois où les mots semblent interchangeables, des fois pas. Donc c'est un domaine dans lequel il faut avancer avec prudence. Nous sommes aussi des êtres créés avec une intelligence. Vous avez remarqué que Adam et Ève n'ont pas eu à apprendre à parler. Adam a été créé avec la capacité de nommer tous les animaux que Dieu avait faits. Il y a une intelligence aussi qui s'est rapidement manifestée, dès les premiers chapitres de la Genèse, pour créer une forme d'industrie et créer des instruments de musique, du travail du métal, enfin voilà, il y avait ce genre de choses. Ça n'a pas été le résultat de longue évolution si on suit le récit biblique. Mais cette intelligence, elle se manifeste aussi par une capacité de réflexion. On voit qu'Ève réfléchit dans le jardin d'Éden. Mal, mais elle réfléchit. on voit aussi que l'homme est créé avec un certain nombre de désirs. Des désirs qui peuvent être influencés. Jacques nous dit que chacun est attiré quand il est amorcé par sa propre convoitise. Donc nous avons intrinsèquement des désirs. S'il n'y avait pas eu le péché, ces désirs auraient toujours été conformes aux désirs divins. Notre pensée aurait toujours été alignée sur celle de Dieu. Mais parce que nous sommes pécheurs, ces désirs tendent vers ce que Dieu ne veut pas. Ça, on va le voir dans un instant. Nous avons aussi été créés avec des émotions. C'est un des cours que je préfère quand on avance un petit peu plus loin dans la relation d'aide biblique, la théologie des émotions. On voit que les émotions ne sont pas une mauvaise en elles-mêmes. Dieu nous a créés avec des émotions. Dieu éprouve lui-même des émotions. Christ, incarné, a éprouvé des émotions. Il a même éprouvé de la colère. Ces émotions, elles sont un indicateur du cœur, en réalité. Alors, je ne vais pas faire le cours de théologie des émotions maintenant, mais voilà, c'est important. Dans certaines cultures, il va être honteux d'exprimer certaines émotions. Donc, il y a une dimension culturelle aussi dans la notion des émotions. Impossible de le dire.
On parle de psychologie pour les animaux, pour les chiens aussi. Donc les chiens, ils ont des émotions.
Si je me fie à ce que dit la Bible, je ne peux pas trancher cette question-là. Et je veux ne me fier qu'à la Bible. C'est un cours de relation d'aide biblique, alors je suis obligé de m'en tenir à ce que la Bible révèle. Et comme là, ça fait vraiment partie du domaine immatériel, une émotion, comment la mesurer? C'est impossible de mesurer ça. Et donc cet homme créé par Dieu, au septième jour, enfin à la fin du sixième jour, Dieu finit sa création, il prend un petit peu de recul, et il regarde, et il dit que c'est très bon. Donc l'homme fait partie d'une création qui est très bonne. C'est pour ça que David peut dire « je suis une créature merveilleuse ». Quand on réfléchit un petit peu au fonctionnement du corps humain, c'est bluffant. Mais nous sommes, depuis la chute, des créatures déchues. Le Seigneur a fait toutes choses bonnes, mais l'homme, tenté par le diable, a choisi une autre voie que celle de Dieu. Et en choisissant une autre voie, il a choisi un autre chemin, il a choisi une autre vision. Au moment où l'homme a péché, je dis l'homme au sens générique du terme, ses pensées ont cessé d'être en accord avec celles de Dieu.
Il n'a pas choisi ce qui est péché.
Ah, il a fait un choix. Oui. Il y a de la ruse, c'est avec la ruse hein, que le diable a piégé, mais l'homme est responsable. S'il n'avait pas été responsable, il n'aurait pas été jugé. Mais Dieu l'a jugé responsable, malgré le piège, il était armé pour faire face à ce piège. Il était armé, il aurait pu le faire. Il aurait pu dire non. Et le péché nous a laissé morts. Nous a laissé morts et dépravés. Et là, je voudrais qu'on fasse une toute petite parenthèse pour définir ce que ça veut dire mort et dépravé. Parce qu'on se fait en général une idée assez précise de la mort, parce qu'on la côtoie de près quand même, la mort. Tous connus à un moment ou à un autre, un proche qui est mort. Et si on nous pose la question, instinctivement, la première réponse qui nous vient quand on parle de la mort, c'est que les fonctions biologiques cessent. Il n'y a plus de pouls, il n'y a plus de respiration. La vie physique a quitté le corps. Mais lorsque Dieu dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras », ce n'est pas de cette mort-là qu'il parle. Parce que le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit, leurs corps ont continué à vivre. Ils ont continué à manger, boire, respirer, marcher. Leurs corps ont commencé à dépérir. Plus tard, leurs fonctions biologiques ont cessé, bien plus tard pour eux. Mais pourtant, ils sont morts. La sentence de Dieu s'est accomplie le jour dit. Mais ce n'était pas une mort physique, c'est la mort intérieure, la mort spirituelle. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire dans Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est de cette mort-là qu'il est question. Et il ne s'adresse pas à des cadavres quand il dit cela. Il s'adresse à des gens qui mangent, qui marchent, qui boivent, qui vivent, mais qui sont morts. Donc cette mort, elle ne tue pas immédiatement le corps. Cette mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est une mort spirituelle d'avec Dieu qui est la vie. Prend un relief particulier hein, quand on se rappelle, Jésus-Christ a dit « Je suis la vie ». Quand on se sépare de celui qui est la vie, il ne reste que la mort. Mais même s'il est mort spirituellement, l'homme reste quand même capable d'un certain nombre de choses. Il reste capable d'appréhender l'existence de Dieu. Il est capable de comprendre qu'il existe un Dieu, et Dieu le tiendra pour responsable, d'ailleurs, de l'avoir reconnu ou pas, ce que dit Romains 1. Même s'il n'est pas possible à l'homme de comprendre toute la pensée de Dieu, l'homme est capable de comprendre l'existence de Dieu. D'ailleurs, Dieu a laissé en nous la pensée de l'éternité, hein, qui nous conduit vers à chercher le Créateur. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de religions dans le monde? Ben, c'est ce qui se passe quand l'homme, sans Dieu, cherche la réponse à ses questions et qu'il n'y a pas de révélation. Pourquoi est-ce que je suis là? Il y a bien quelque chose, il y a une pensée d'éternité en moi qui me pousse à croire qu'il y a autre chose que le monde simplement matériel et cette vie-ci. Donc c'est comme ça que naissent les religions. Et cet état de mort, c'est l'état de tous les hommes, sans exception, hein, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et puisque l'homme est maintenant séparé de Dieu, ses pensées sont centrées sur lui, et il devient donc égoïste. Et ça, c'est important de comprendre ça parce que notre anthropologie doit être biblique. Notre définition de l'homme doit être biblique. Si on aborde l'homme, notre prochain, autrement qu'au travers du filtre de la Bible, on va avoir à un moment un problème. Mais cet homme déchu, cet homme mort, est quand même capable aussi de faire le bien. Jésus, il le dit, hein, méchant comme vous êtes capable de faire le bien. Alors, ce n'est pas un bien salutaire, l'homme n'est jamais capable de faire un bien salutaire qui l'amènera au salut, mais on est capable de comprendre ce qu'est le bien. On est capable, dans une certaine mesure, de faire le bien, même si on n'est pas régénéré, même si on n'est pas sauvé. Et ce qui est formidable, c'est que cet homme déchu, dépravé et corrompu est peut-être racheté. Il est rachetable ou, je crois que le mot n'existe pas, mais il est rédemptable. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle, ça c'est un don gratuit qui est en Jésus-Christ. Nous pouvons être, l'homme peut être régénéré ou recréé. Et cette recréation, cette régénération est éternelle. C'est-à-dire que ce que Dieu a créé durera toujours. Lorsque nous venons à la foi en Jésus-Christ, il nous dit, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Cet homme peut être, et j'ai envie de dire qu'il doit être renouvelé intérieurement, son être intérieur doit être renouvelé. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu, par ce renouvellement intérieur, va nous transformer à son image. Ce n'est pas un renouvellement qui est entièrement passif. C'est quelque chose que Dieu fait, mais auquel nous devons, là encore, participer. Et soyez renouvelés. Donc il y a c'est un passif qui est dans le grec, mais il y a quand même un appel à notre action ici, et on le voit en particulier dans Éphésiens 4. Nous devons nous dépouiller du vieil homme, être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et revêtir l'homme nouveau. Par Jésus-Christ, l'homme peut aussi être transformé à l'image de Christ. Ça, c'est le plan de Dieu. Je sais pas si on se rend compte que le plan de Dieu, c'était que l'homme soit à son image. Ça, c'est le plan de départ de la création. Vu qu'il y ait sur la terre quelqu'un qui lui ressemble. Et ce plan, Dieu ne l'a pas abandonné. Ça reste toujours le plan de Dieu. Il veut qu'il y ait une révélation visible de lui dans l'univers. Et cette révélation visible de lui, c'est nous qui sommes censés la manifester. Dieu n'a pas abandonné ce plan, il est toujours en train de l'accomplir en nous, si nous avons saisi le Seigneur Jésus-Christ, si nous croyons en lui, c'est toujours son plan que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. Vous connaissez Romains 8, 28 ? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est quoi le dessein de Dieu ? Quelle question au verset 29 ? Mais l'accomplissement de sa volonté, quelle est cette volonté ? Il nous a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Donc le bien que Dieu veut, c'est ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt à la ressemblance, à la transformation à la ressemblance de Christ, de ceux qui aiment Dieu. Mais notez bien, c'est de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui obéissent. Comme ça qu'on manifeste notre amour à Dieu, c'est par notre obéissance. Ceux qui n'aiment pas Dieu vont pas être transformés à la ressemblance de Christ. Ils vont rester semblables à Adam, désobéissants.
Et même la grâce de Dieu, nous pouvons retenir sa présence parce qu'on a été ici.
Exactement, oui.
Mais il y a une chose qu'on pourrait savoir, c'est que si il n'y avait pas eu cette solution, l'homme aurait pu être péché lui-même et Dieu lui séparer lui.
Alors là, je m'arrête là parce qu'avec des si, là le récit biblique ne nous le dit pas. Donc il faut être prudent avec ce que la Bible ne dit pas. Et la Bible ne dit pas si, dans ce cas-là. Et il faut faire attention de ne pas rendre responsable, Dieu responsable de la chute. Attention de ne pas rendre Dieu responsable de la chute. Oh oui, on aurait fait la même chose, on n'aurait pas fait mieux qu'Adam. Donc l'homme peut être racheté, régénéré, renouvelé, transformé, parce que cette transformation, on l'a vu, elle n'est pas notre fait, elle est le fait de Dieu en collaboration avec nous, et Dieu nous prodigue ses soins pour qu'on change. Si vous avez un jour demandé à Dieu, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Ça, c'est une prière dangereuse, hein. Parce que Dieu l'exauce. Dieu veut vous changer. Il vous aime suffisamment pour vous recevoir tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser tel que vous êtes. Donc Dieu veut vous changer. Et ça, c'est important. Il y a des prières comme ça, hein, qui sont dangereuses. Dieu, rends-moi patient. Tiens, vas-y. T'as des occasions d'être patient, tout plein. Seigneur, change-moi, transforme-moi, rends-moi semblable à Jésus-Christ. Bah vas-y, regarde comment il a réagi donc, quand il était face à l'opposition, quand il était face à la douleur, face aux méchants. Vas-y, tu veux être semblable à Jésus ? Vas-y. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle les prières dangereuses. Mais on peut vraiment être transformé. Et ça, c'est important parce que ça nous donne de l'espoir. Et on a besoin d'espoir. Encore une fois, cette transformation, elle est le fait de Dieu, notre fait à nous, individuellement et collectivement, parce que nous avons notre rôle à jouer dans la transformation les uns des autres. Quelqu'un a dit qu'on n'est pas comme, on n'est pas des patates. Dieu n'a pas planté un champ de patates où chaque patate grandit dans son coin. On est interdépendant.
Et tous différents.
Et tous différents.
Et aucun flocon de neige.
Exactement. On a des jolis flocons. Donc pour terminer, je pense que je vais m'arrêter là pour le sinon après je suis obligé d'entamer un autre chapitre. L'homme est créé à l'image de Dieu, aimé et racheté par Dieu, transformé à l'image de Dieu et vivant pour la gloire de Dieu. Si on a en tête les caractéristiques que nous venons de voir, alors bien sûr on pourrait approfondir, hein, c'est en 40 minutes un survol d'anthropologie, c'est largement de quoi creuser encore, mais si on est armé de cette pensée de ce qu'est l'homme, on va être beaucoup plus équipé, beaucoup mieux équipé pour pouvoir l'aider. Pour pouvoir l'aider comme Dieu l'aiderait. Avec la vision de Dieu de ce qu'est un homme et de ce qu'il n'est pas. Et ça, c'est vraiment très important. Vous faites face, quand vous êtes quelqu'un que vous voulez aider, à quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, mais qui est pécheur. Et à cause de ce péché, il est rendu dur, aveugle, difficile, tortueux. Mais il y a une source d'espoir qui ne se trouve pas en lui. Une source d'espoir extérieure. Et cette source d'espoir, c'est pas vous. Vous n'êtes pas l'espoir de la personne. C'est Christ qui est son espoir. Le but, c'est pas de créer une personne qui sera dépendante de vous. Créer une personne qui sera dépendante de Dieu. Parce que ça, c'est le dessein originel. Nous avons été créés par Dieu, pour Dieu. Pour vivre avec lui. Je m'arrête donc là pour l'instant et je laisse la place à Olivia pour la partie étude de cas.
Je m'excuse, j'ai pas toute mon énergie aujourd'hui, mais je vous ai préparé une étude de cas pour vous rendre ça un peu plus pratique. Donc vous avez les deux feuilles normalement devant vous et c'est très court. Je vous ai donné juste un minimum d'informations juste pour creuser quelques mots clés. Donc, l'étude s'intitule « J'ai reçu un diagnostic ». Ça veut dire une interprétation de mon problème. Le scénario est « Un membre de l'Église âgé de 32 ans fait état d'une anxiété persistante. Il déclare mon thérapeute dit qu'il s'agit d'un trouble d'anxiété. J'apprends à gérer cette situation, mais je me sens toujours dépassée. Je ne sais pas comment ma foi peut m'aider dans cette situation. » Donc, nous allons travailler ensemble pour décortiquer certaines idées, certaines choses, pour mieux comprendre le paradigme, des choses qui vont nous éclairer pour mieux comprendre, ça, c'est en lien avec tout ce qu'on a vu ce matin. Donc, alors, quand cette personne dit, mon thérapeute dit qu'il s'agit d'un trouble d'anxiété, quelle voix semble avoir le plus d'autorité pour interpréter son expérience, selon vous? Pardon? Thérapeute? Et autres, et le...
Quand même, je ne sais pas comment ma foi peut m'aider dans cette situation.
Oui.
Il s'agit d'un membre de l'Église qui a donc la foi aussi. Un cas d'une personne qui est donc chrétienne.
Normalement, oui, selon le... Oui, oui, oui. Donc, on peut dire l'autorité principale semble être le diagnostic thérapeutique, la personne elle-même. Mais surtout, quand on parle de thérapie et des choses thérapeutiques, c'est séculaire, c'est pas, oui. Donc, ce diagnostic thérapeutique devient la lentille dominante à travers laquelle la personne comprend son expérience, son identité et ses limites. La foi est mentionnée, mais elle n'est pas encore fonctionnellement centrale de la situation. Alors, comment discerner si un diagnostic est utilisé comme une description ou comme une explication ultime? Parce que c'est important de savoir comment faire la différence entre observation et interprétation.
savoir déjà comment le malade se considère dans son identité. Le thérapeute, il analyse le comportement, mais la personne, comment se voit-elle dans son identité?
Dans le diagnostic qu'a posé le thérapeute, en l'occurrence, qu'est-ce qui relève de l'observation, j'ai observé, et qu'est-ce qui relève de l'interprétation, j'ai vu quelque chose et je lui donne un sens.
L'observation, c'est le dépassement, se sentir dépassé, et l'interprétation, c'est anxiété persistante.
Une question.
On est d'accord. C'est peu d'éléments. On est d'accord.
Hein. Oui, j'ai exprès, j'ai réduit parce que sinon. Mais le diagnostic devient explicatif ultime lorsqu'il ressemble déterminer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ou non spirituellement. La phrase qui dit « Je ne sais pas comment ma foi peut m'aider », ça indique que l'espérance est davantage placée dans la gestion clinique ou médicale que dans l'action de Dieu. Donc, ça reflète un peu l'état de l'âme de la personne, la compréhension, leur état de réfléchir. Et c'est très commun aujourd'hui que nous pouvons aussi nous trouver dans la même situation, la même réflexion.
Parce que l'anxiété force la vision des choses. Il ne peut pas être objectif. Le malade ne peut pas être objectif. Son anxiété va tout bloquer.
Mais est-ce que l'anxiété, c'est quelque chose, c'est une maladie?
Non, mais c'est un état d'âme.
Oui.
Ça va aussi la vision.
Ça peut, oui, ça peut. Oui. Ça peut être aussi le fait qu'on est bombardé aujourd'hui avec des idées qui sont présentées comme vérité, et c'est des automatismes. Ah, je suis anxieuse, j'ai voilà. Donc, alors où la foi est-elle placée dans son raisonnement? Pardon?
Mais en quoi il croit?
Oui, voilà.
C'est ça. Sa foi à elle, il y a du mal et c'est dû à ce qu'il y a demandé. Qu'est-ce que je peux faire avec
qu'est-ce
mon foi?
Qu'est-ce que l'écriture appelle foi?
Mais on lit que c'est la dernière chose qui est mentionnée. Je ne sais pas comment ma foi peut m'aider.
On part du principe que c'est une personne chrétienne de l'Église. Donc vraiment chrétienne, née de nouveau, mais qu'elle se trouve dans une situation où elle ne sait pas, j'arrive pas à recoller les morceaux, à dire ma foi, comment est-ce que je suis censé la vivre par rapport à ça.
On dira la parole, je dis à
qui c'est pas là.
Je ne
sais pas,
car
on dira
la parole, là, il y a l'esprit de Dieu.
Ça suffit.
Parce que là, c'est la capacité de notre chrétien, d'un chrétien qui a la foi. Ce serait quelqu'un du monde, ce serait différent. Il faudrait utiliser autre chose. Je pense, hein.
C'est déjà quelqu'un de jeune. C'est pas une personne
âgée.
C'est pas
les
radios.
Le
premier
à la parole.
Oui.
Est-ce que vous êtes d'accord que pour elle, pour la personne, la foi semble être périphérique, quelque chose qui n'est pas
périphérique,
central,
oui.
Qui n'est pas central dans sa réflexion? Pardon?
Elle a une foi extrêmement forte, résistante, mais elle ne va pas aller voir quelqu'un parce que sa foi lui permet déjà de réguler la quelqu'un qui a fait dans...
Pas forcément, parce que, si tu me permets d'intervenir, dans l'expérience, on voit que beaucoup de chrétiens qui ont une foi vivante, sincère, des connaissances bibliques même étendues, peuvent être singulièrement démunis lorsqu'il s'agit de faire face à des difficultés et se dire mais comment est-ce que je connecte ça à ma foi? Et je ne sais pas comment ma foi peut m'aider dans cette situation.
C'est un cheminement, mais un cheminement authentique.
Ah oui, bien sûr. Ah bien sûr.
Certaines circonstances amènent devant le mur.
Alors, il y a Yves qui est un bon élève, il a levé la main pour parler.
C'est là qu'on a besoin d'un appui dans la famille, ou alors dans l'église, et nous dans l'église. d'avoir des autres frères qui sont là attentifs à nous, si nous on n'y arrive pas. C'est eux qui vont venir.
C'est là qu'il faut revenir à la communion fraternelle et à la prière de groupe, partager les fardeaux, comme ça la faiblesse de quelqu'un est soutenue par la prière de l'autre. On n'est pas un électron libre, on est.
C'est vrai, c'est vrai.
Là, il s'agit d'un chrétien qui a la foi.
Oui. Mais c'est aussi important qu'individuellement, nous pouvons arriver à discerner et en utilisant le filtre que Dieu nous a donné, qui est la parole, pour que cette interprétation de la situation et aussi la compréhension de ma souffrance, par exemple, soit centrée sur la foi et la Bible, le paradigme biblique. Donc, il semble que c'est pas encore utilisé comme filtre. Le filtre est plutôt ce que la thérapeute leur a déclaré, c'est-à-dire, diagnostiqué.
C'est-à-dire essayer de redire les choses en lui disant que c'est normal que la foi puisse être éprouvée ou testée ou tentée, et donc replacer ça dans le cadre de l'écriture, de revoir les choses de façon plus complète selon ce que Dieu pourrait dire.
Exactement, c'est ça, parce que après tout, en tant qu'être humain, nous vivons dans un monde déchu, nous sommes pécheurs, tout est imparfait. Et c'est normal d'avoir des moments où on est mal, où on est anxieux, ça fait partie de la vie en tant qu'être humain.
Alors moi, je raisonne en disant l'anxiété, c'est un symptôme de quelque chose qui est plus profond, qui on pourrait résumer en un seul mot, la peur. Peur de quelque chose de fou. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et du coup, est-ce que, pour moi, quand je réponds à votre question, la principale autorité qui est dans elle, même si elle, cette personne, même si elle ne l'a pas formulée, c'est cette peur qu'elle a en elle de quelque chose, je ne sais pas, ou d'une absence de choses. Et donc, ce qui gouverne, c'est le manque de confiance en Dieu. Et le fait de. Et donc, est-ce que. J'arrive pas à comprendre cette histoire de foi périphérique avec l'autorité du thérapeute. Je suis plutôt en train de me dire, mais est-ce qu'on ne doit pas lui montrer l'autorité de, lui rappeler l'autorité de la parole de Dieu, enfin, de la présence de Dieu, les promesses de Dieu, pour aller dans le sens, et c'est ça dont elle a besoin. Et en fait, pourquoi penser qu'elle est sous l'emprise du thérapeute? En même temps, elle vient questionner avec sa foi qu'elle a, sans avoir compris, donc à nous de la guider, mais
je suis d'accord.
Le thérapeute dit quelque chose, lui dit quelque chose, elle verbalise ce qu'elle montre, ce qu'elle voit en surface, donc, ce qu'elle n'a compris en surface.
En fait, oui, mais c'est exactement ça. Mais ce qu'on cherche à faire ici, c'est à comprendre quelles sont les voies que cette personne entend, qui sont à l'œuvre dans l'esprit de cette personne. Elle entend la voix d'un thérapeute qui lui dit « Vous souffrez de ça ». Elle va entendre la voix d'un chrétien qui va lui dire « Mais non, il y a ça ». Et en fait, pour l'aider de manière efficace, il faut comprendre ce que cette personne pense et quel est le diagnostic qui fait autorité dans sa vie. Et c'est ça qu'on cherche à comprendre. Quelle est la voix qu'elle entend? Alors, je ne parle pas d'une personne qui entend des voix, hein, comprenez-moi bien, hein, mais quelle est la voix qui a autorité dans sa vie ici? Parce que ça fait partie du discernement que nous devons avoir, parce que dans la vie quotidienne, vous avez très rarement une personne qui vient vous voir et qui va n'écouter que vous. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Elle entend tout un tas de voix, il y a plein de choses qui peuvent avoir autorité, plus ou moins dans sa vie, et c'est important de savoir ça. Et de savoir qu'est-ce qui fait autorité.
Prononce et qu'elle dise comment ma foi peut m'aider, c'est qu'elle elle a conscience de l'autorité, enfin, de la place de la foi.
Absolument.
Et de Dieu dans sa vie,
oui.
Dans
sa oui. Donc, et qu'elle a.
Si,
absolument.
Si le thérapeute, alors elle verbalise que le thérapeute a mis un mot sur le symptôme.
Oui. Oui. Mais elle ne sait pas forcément comment le vivre dans sa foi. Est-ce que le diagnostic est valable? Sur quoi est-ce qu'il se base? Et comment est-ce que je suis appelé à vivre ce que je vis?
Déculpabiliser peut-être
la
personne
et
de l'amener à la parole.
Comprendre. Chercher à comprendre. Explique-moi ce que tu vis. Moi, je passe pas un diagnostic, je vais pas dire tu souffres d'un trouble anxieux ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu vis? Explique-moi ce que tu vis. Qu'est-ce que le thérapeute a dit, Qu'est-ce que tu as expliqué au thérapeute qu'il a catégorisé comme trouble anxieux?
Oui, et je voulais relever le point aussi, le danger de faire notre confiance dans les diagnostics du monde, parce que après tout, le DSM, c'est pas fiable avec son histoire et ça change tout le temps. De vraiment, de être alerté à ces étiquettes comme un trouble d'anxiété, et il y en a plein d'autres, mais juste, c'est une autorité quelque part, cette diagnostic. Et soit on le prend à fond, ou soit on écoute, mais on revient à pratiquer, à exercer notre foi. C'est une autorité. Donc je voulais surtout relever ça et l'appeler pour ce qu'elle est. Donc, et c'est important d'être, comment dire, conscient que notre autorité, comme on avait dit, c'est la parole de Dieu et notre foi, Dieu. Et si on se laisse convaincu que voilà, cette étiquette est ma vérité, ça mène à toutes sortes d'idées fausses. Et malheureusement, j'ai rencontré des chrétiens qui croient vraiment dans leur étiquette. Ils sont une femme qui se lève chaque matin, une femme chrétienne dans le ministère qui se lève chaque matin. Et ça, elle vit pour prendre son médicament contre la dépression. C'est de la folie. Et elle est, voilà. Donc on doit être conscient des choses et vraiment creuser notre compréhension des choses qui nous influencent.
La psychologie est une branche de l'humanisme. L'homme est au centre.
Oui,
mais
tout à fait.
Pourquoi pas chanter « Louer le Seigneur pour être délivré de la dépression » dans ce pays? Je m'écris, loué soit le Seigneur, et je suis délivré de tous mes ennemis. Vous chantez, oui.
Mais c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Alors, oui. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure.
Oui, pardon.
Il y a une question.
Il y a quand même des problèmes.
Parce qu'il y a une imposition.
Attendez, s'il vous plaît, il y avait une question.
Est-ce que peut-être voir le cheminement qu'elle a fait, ça peut nous aider? Par exemple, là, les directement, il faut aller voir le thérapeute d'abord, et ensuite, pour ça, pas marcher, de demander à quelqu'un de chrétien. Peut-être que nous, ça peut nous aider déjà dans le cheminement, voir la place, comme ça peut.
Oui, tout à fait. J'ai donné très peu d'informations, il y a un peu, oui. C'est juste pour tout à fait, ça compte, son entourage aussi compte, c'est important de qu'elle soit impliquée dans une église avec frères et sœurs pour l'aider. Mais en revenant juste avant de avancer, il y a des versets qui nous aident à comprendre que la parole est notre autorité. Est-ce que vous pouvez citer quelques références? Voilà, très bien. Oui.
Parce que ça, c'est important. Si Jésus demande ça à Dieu pour nous, c'est que nous, on en a besoin.
Tout à fait.
Si je suis l'Éternel, tu peux guérir.
Oui. Tout à fait.
J'ai entendu une référence circuler par la. Ouais. Et oui. Qu'est-ce que ça dit de Timothée 3,16? Oui.
Tout à fait, ça implique toute la vie. Oui. J'avais aussi pensé à Tite 2,15. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, Paul dit. Que personne ne te méprise. Donc, la parole est notre autorité pour toute la vie, toutes circonstances. Ok, on passe aux observations et interprétations. Quelles données observables sont présentes dans cette petite étude de cas?
Anxiété persistante.
Oui, anxiété persistante.
Anxieux, on peut l'être.
Oui. Exact. C'est un bon point. Ça dure. Donc, sentiment d'être dépassé.
Il sait que la foi peut l'aider, parce qu'il ne sait pas comment.
Oui, tout à fait. Ce côté-là, vous êtes assez calme. Alors, quelles autres données
Il y a Félix qui veut donner une...
Oui, pardon.
Moi, je dirais, je crois ou je veux croire, bien toujours de mon anxiété ou de mon incrédulité.
Amen.
On voit un peu ça.
Oui. Donc, il y a un diagnostic qui a été posé.
Peut-être que je le vois encore, d'ailleurs, parce que mon thérapeute dit, c'est un thérapeute qui le suit.
Oui, c'est possible.
Quelque part, la personne fait état qu'elle a une fois, on ne sait pas trop forcément laquelle, mais que cette foi, quelque part, n'est pas efficace dans la situation qu'elle vit, comme s'il y avait ce qui est dans son âme, des versets.
Oui, c'est pas clair pour cette personne.
Elle n'est pas intégrée entièrement et elle a besoin d'être accompagnée quelque part.
Oui.
L'anxiété persistante, donc ça perdure. L'habitude continuelle négative.
Oui.
Ça peut durer des jours, des mois, des années.
Oui, parce que après tout, c'est normal d'être anxieuse de temps en temps. C'est même une bonne chose des fois. Oui, derrière.
Si la personne va chercher cette réponse chez le thérapeute, dans son église, est-ce qu'il y a un manquement au niveau de son église? Est-ce que son église n'a pas assez parlé de ces choses-là?
Bonne réflexion, on ne sait pas, oui. Peut-être.
Peut-être qu'elle n'en a pas parlé.
C'est vrai, oui. Oui, on peut imaginer plein de choses.
On voit aussi qu'elle n'est peut-être pas armée.
Moi, je remarque juste quelque chose que je trouve très positif, c'est que vous avez un cas, là, et vous vous êtes pas satisfait de ce que vous avez. Vous avez remarqué qu'il nous en manque beaucoup.
Oui. Oui.
Et ça, c'est important, parce que, bon, on a des infos, c'est volontairement restreint, hein, parce que sinon, on pouvait faire des cas de 10 pages à étudier, mais ça aurait été inadapté à ce cours. Mais vous remarquez qu'il faut en savoir plus.
Oui. Donc, dernière observation, la personne a du mal, je crois que c'était déjà mentionné, du mal de voir le lien entre la foi et la situation. Donc là, on passe aux interprétations. Quelles interprétations la personne fait-elle? Alors, là, je veux au moins deux réponses de ce côté-là.
Vivien.
Oui.
Elle dit qu'elle est dépassée, cette personne. C'est son point de vue, peut-être que quelqu'un d'autre aura une autre.
Oui.
Plus fort. Elle se sent dépassée, mais c'est son point de vue, peut-être que quelqu'un d'extérieur aura une autre.
Oui, bien. Quelqu'un d'autre? Oui.
Elle ressent le besoin d'être aidée. On sent que malgré cette détresse, elle a quand même l'interprétation. Et cette vision qu'elle est quand même en détresse et qu'elle a besoin d'être.
Oui. Oui, merci. Quelqu'un va ajouter? C'est ouvert maintenant, vous pouvez. Alors, oui.
Le thérapeute n'est pas efficace, en fait, parce qu'elle se sent toujours dépassée. Donc, si c'est son thérapeute, c'est la vie qui va le voir. Et si elle est toujours dépassée, c'est le thérapeute.
Ça, on ne sait pas, parce que c'est peut-être la première visite, on ne sait pas. Oui. 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 Oui, et ça, c'est honnêtement, pour nous, la limite de la psychologie pour nous est définie à cette limite-là. La psychologie peut nous aider avec des descriptions, avec des observations du comportement de l'homme, mais dès qu'on commence à interpréter, là, on est sur deux bases différentes vis-à-vis de l'anthropologie, plein de choses, l'objectif de suivi et tout ça. Donc, c'est pourquoi c'est important de distinguer observation et interprétation. Donc, cette personne interprète son anxiété comme principalement médicale et implicitement peu accessible à l'aide spirituelle, pour le moment. Juste, elle suppose que la foi est insuffisante, on ne sait pas à quel point c'est suffisant pour la personne face à ce type de problème. Donc la personne questionne la foi et comment ça peut être intégré dans la dans cette situation. Donc voilà quelques exemples d'interprétation. Oui, tu veux ajouter?
Beaucoup de je. Mm-hmm. J'apprends je. Est-ce que c'est pas une manière aussi de voir un peu son problème agi? Un égoïste, un peu de survie,
on ne sait pas, mais c'est des bonnes réflexions à avoir, oui. C'est important aussi d'écouter la personne et si ça se répète, ça peut être vraiment un problème.
Le monde est un sujet d'oppressant, donc il y a la triche du monde aussi qui est là sur tout le monde. Mm. Ce n'est pas forcément la personne de nous-mêmes. Le monde n'est pas connu.
Mm. Là, le texte ne le dit pas, mais en réalité, on ne va pas se contenter de ça. En tant que conseiller en relation d'aide, on ne va pas se contenter de ça, mais du tout. On va creuser, poser plein de questions parce qu'on veut connaître ce que vit la personne.
Oui. Donc, pourquoi est-il crucial de faire la distinction entre observation et interprétation, selon vous?
Parce qu'on interprète un peu trop vite, on met un jugement sur ce que
voilà. Oui.
C'est notre, alors plus le nôtre, parce que c'est notre vision et notre vie ensemble.
Oui, tout à fait.
Ne pas se tromper de diagnostic.
Oui.
Tu es obligé d'apprendre dans tous les cas, on va dire, d'observer. Donc avant d'observer, de dialoguer, de faire donc toutes ces démarches, et après pour pouvoir, on va dire, interpréter de la façon la mieux possible que le Seigneur est à notre disposition. Pour moi, c'est normal, je vais observer donc, la situation. Et après, je vais pouvoir intervenir et interpréter.
Oui, l'action va refléter ce qu'on a observé.
C'est ce qu'on apprend en milieu médical, au niveau des secouristes. J'arrive sur un accident, je vais d'abord observer, évidemment en quelques secondes, observer donc la situation pour pouvoir, bon, là, pas interpréter, mais pour pouvoir intervenir.
Oui.
Et je veux dire que dans la relationnelle, c'est exactement pareil. Mm-hmm. J'observe, j'interprète.
Tout à fait. Et c'est ça. C'est pour corriger les mauvaises croyances ou convictions. On cherche à corriger la manière dont ces expériences sont comprises, parce qu'on peut mal comprendre des choses. Et c'est surtout pour, on ne nie pas ce qui est vécu. On ne nie pas la souffrance de la personne. On ne veut pas juste essayer de raisonner la personne. Non, c'est vraiment prendre compte la souffrance aussi. Donc, oui, c'est un don, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Ok, on va passer à comment formuler une réponse biblique sans nier la souffrance. Donc, comment affirmer la souffrance sans définir l'identité par l'anxiété ou l'étiquette qu'ils ont été collés?
Concrètement, cette personne, elle vient vous voir. Qu'est-ce que vous lui dites pour montrer que vous avez entendu, que vous comprenez, mais sans aller jusqu'à valider le diagnostic du thérapeute?
En reformule, je suis
désolée. Oui.
Oui. Donc, montrer de l'intérêt à leur vie, à leur situation, poser des questions. Je suis désolée, c'est très utile comme phrase pour sympathiser, pour vraiment... Oui, exact. Pardon? Comprendre leur souffrance, oui. Oui, écouter. Oui. Oui, on reconnaît que l'anxiété est réelle et est éprouvante. Donc, on ne minimise pas l'impact de l'anxiété a sur leur vie, même si la personne le vit plus intensément que nous-mêmes, par exemple. On ne doit pas comparer, mais on refuse qu'elle devienne une identité fixe. Donc, on ne veut pas fixer sur cette étiquette identité à vie, parce que nous voulons avoir une perspective biblique, parce que la Bible parle à des personnes anxieuses sans jamais les réduire à leur peur ou leur étiquette. Donc, ce sont des personnes créées à l'image de Dieu. Alors, quelques exemples de l'Écriture. Comment Jésus traite-t-il l'inquiétude dans Matthieu 6? Nous pouvons lire. Est-ce que quelqu'un veut bien lire le passage que on a imprimé? Matthieu 6, versets 25 à 34. Qui veut bien lire? Oui, merci.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à forte raison, non de tout le corps? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Merci. Donc, quelle est l'attitude de Jésus vis-à-vis de l'inquiétude, selon ce passage?
La confiance en Dieu, ne pas s'inquiéter, savoir être sécurisé par la présence de Dieu.
Oui.
Et il illustre avec des faits très précis, très pratiques, qu'on peut tous voir à un moment. Il se sert de la nature, de ce qu'il a fait, etc., pour illustrer et appuyer son propos.
Exact.
Et comme avec une personne qui souffre de peur et d'anxiété, on va chercher dans son quotidien, dans sa vie, dans ce qu'il a, pour le mettre le rendre réel, ce verset est réel pour elle.
Oui, il ne la minimise pas du tout. Oui.
Ça pourrait un peu culpabiliser quand même. Quand oui, voilà. Chant de peu de foi. Ouais,
c'est ça.
On se prend dans la tête quand même. Et surtout si on a.
Est-ce que c'est pas vrai quelque part?
Oui, bien sûr. Mais.
Ouais. Peut-être pas en premier, mais est-ce que ça peut pas faire partie des choses?
Oui.
Ça dépend comment on l'amène aussi.
Il y a un chant qui dit vers Jésus, les yeux, les yeux, contemple son visage vers les yeux, et les choses de la terre, tout à fait disparu.
Oui, sa perspective. Est-ce qu'il y a autre chose de ce texte, Matthieu? Vous voulez relever?
Est-ce qu'on y est la souffrance, il y a une constate sur Dieu en disant que ça doit être ça notre priorité, même dans la souffrance, et particulièrement dans la souffrance, d'abord chercher le royaume de Dieu.
Oui. Oui, tout à fait. La priorité, c'est Dieu. Et c'est la perspective que Dieu demande de nous d'avoir.
Oui. Jésus dit là, regardez, ça veut dire regardez ma création. Regardez ce que j'ai créé. Et quoi est plus grand que la création? Et on en fait partie. Et je pense que quand Dieu dit regardez, c'est regarder. C'est pas simplement, c'est regarder. S'arrêter et regarder.
Donc, c'est une orientation aussi de nos pensées, de notre attention.
Ah, attendez, une question là, et puis il y en a une aussi.
Dans le sens où Jésus est premier à faire référence à des choses qui sont connues, qui sont concrètes et palpables pour la personne. Et je crois que pour la personne qui vient et qui en a besoin,
il faut la recentrer sur ce que Jésus a fait pour elle déjà,
oui.
Ce que Jésus a fait pour son voisin, enfin, et pour que la confiance en Dieu soit déjà étayée par du vécu qu'elle a oublié, qu'elle ne voit pas, mais qu'il faut recentrer. Et pour ensuite lui dire, ben, tu pourras faire confiance de la même façon, puisque tu as fait, et tu n'as pas de raison de craindre. Enfin, on ne dira pas, tu n'as pas de raison de craindre, mais tes raisons de craindre, elles ont été un temps, et tu vois, Dieu a pourvu, et donc aujourd'hui, ça peut être la même chose. En fait, moi, je continue de dire que Jésus, la façon dont il parle, qui est la meilleure des façons à imiter pour pouvoir...
Oui. Jésus nous montre carrément comment faire.
Donc, il y avait une question.
Oui.
Personne qui voulait parler ici.
Non, c'était pas.
Moi je voulais aussi qu'il rappelle que les païens, enfin, il y a seulement les païens doivent s'acquitter de ça. Et je trouve que c'est aussi un encouragement. Et du coup, nous avons besoin de toi de se dire qu'est-ce qu'aujourd'hui je recherche? Est-ce que c'est ma nourriture ou est-ce que c'est mon Seigneur?
Oui, je comprends.
C'est un encouragement aussi pour la suite de lui dire, en fait, tu fais confiance et épanouis-toi dans ton Seigneur.
Oui. Oui. Bonne remarque. Oui. Tu voulais ajouter?
Ça allait dans le même sens, c'est pour dire que quand on lit ce texte, et, je pense que d'une façon générale, on a tendance à être beaucoup trop terre à terre dans nos inquiétudes. Vraiment des choses que les personnes qui ne croient pas en Dieu doivent s'inquiéter de ça, mais quand on croit en Dieu, on est censé prendre du recul.
Tu as relevé un bon point sur la nourriture. Est-ce qu'on se satisfait avec que la nourriture ou est-ce qu'on attend Dieu et on cherche Dieu pour être complètement satisfait? C'est pas la même chose, c'est pas la même satisfaction.
L'accent sur le Père Céleste est aussi important parce que l'anxiété, la peur, il y a différents types de peur, mais peut-être que cette relation avec Dieu comme Père, un Père aimant, un Père protecteur, un Père initié, des personnes peuvent avoir une relation difficile avec leur Père Céleste.
Oui.
Et aussi, quelque part, elle est transposée avec Dieu, comme un Père pur, méchant. Donc, cette référence à quelque chose
ouvert
est quelque chose qui est important souvent.
Très important, oui.
Au-delà des choses matérielles.
Tout à fait.
L'image de Dieu, c'est un
vrai,
qui
est en France, les jours, et puis plus possible. On peut dire aussi qu'elle n'est pas un tapis rose et qu'elle n'explique pas la souffrance et le secours de Dieu.
Exactement, oui.
Et deux champs de la langue.
Dernière remarque, et en avance après.
Comment on intègre ce passage? Est-ce qu'on l'étudie pour lui-même ou est-ce qu'on l'a laissé de manière musulmane? Est-ce qu'on dit à la personne de venir? Est-ce qu'on l'étudie ensemble? Comment on l'intègre?
Bonne réflexion. Si tu vois, on a déjà des conseillers.
Les trois.
Oui. 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 C'est super.
Je peux juste ajouter une petite chose. Moi, je ferai les trois. C'est-à-dire, si je sais déjà si je connais un petit peu déjà l'historique de la personne, je vais déjà essayer de trouver des solutions dans la parole de Dieu. Donc, je vais l'étudier moi-même. Et je vais l'encourager à, comme je veux qu'elle ait la vision de Dieu sur sa circonstance. Je vais l'encourager à l'étudier et on peut le faire ensemble. Parce que des fois, vous allez être face à des personnes qui sont pas capables de faire une étude seule. Donc, des fois, il va falloir accompagner et puis, pourquoi pas mélanger les deux? Oui.
Est-ce qu'on a déjà couvert? Vous avez bien répondu, vous êtes avancé sur le contenu. Donc.
Je rajouterais.
Oui.
Le côté, que je l'avais écrit. C'était pas une fatalité que ça pouvait être réversible. Parce que, c'est pas toute sa vie qui était qu'il vit aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on peut vivre autrement.
Oui.
Et se dire qu'on va vivre autrement avec l'aide de Dieu et par sa grâce.
Oui, c'est un choix. Ouais. C'est pas définitif, c'est pas... Oui, c'est ça.
Réversible qui est important.
Exactement. Très bien. Ok, on passe au Philippiens 4, versets 6 à 9. Qui veut bien lire le passage Philippiens 4, versets 6 à 9.
Ne vous inquiétez de rien, et dans toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera là.
Merci. Donc, selon ce passage, qu'est-ce que ce passage dit sur l'anxiété? Qu'est-ce qu'on apprend? Plus fort? Oui, de présenter nos besoins à Dieu.
Donc la prière fait partie de la solution.
La prière.
Je crois, mais on se trouve dans l'incrédulité aussi. Même si on ne sait pas dire ce qu'on a, se confier quand même.
Oui, c'est important de se confier et de le verbaliser. Oui. Même si Dieu il sait, il connaît nos pensées, mais.
Je pense aussi que quand Dieu nous dit, quand il nous est dit qu'il entend même les soupirs de notre cœur, ça veut dire qu'on ne sait même pas ce qu'on a. Ça ne va pas, mais on ne sait pas ce qu'on a, mais Dieu le sait.
Oui, il sait, il comprend.
Voilà. Il sait, alors.
Oui.
Attends.
Les
deux qui se passent depuis les autres, c'est aussi faire écho au thérapeute, que la vision de Dieu est supérieure à celle du thérapeute.
Mm-hmm. Si tu lui dis ça, il va être.
Aussi une importance portée à la fois sur le cœur et sur les pensées. Et les pensées, ce n'est pas uniquement les pensées passives. Il faut aussi avoir une action active dans le sens que si on laisse l'esprit vide, il y aura des pensées qui vont venir, mais pas toujours des pensées positives. Alors que si on nourrit des pensées positives, il y aura moins de pensées négatives. Une réappropriation de sa manière.
Oui. Je veux juste revenir à un point, verset 7 qui dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence » dans le sens aussi, j'ai compris ce que tu voulais dire, c'est des compréhensions des autres personnes, ou, mais c'est vraiment, même nous-mêmes on peut se tromper de notre compréhension de la situation, et même le conseil qu'on reçoit aussi, que Dieu soit notre autorité ultime sur ce qu'on vit, et c'est important aussi, et la façon dont on réfléchit ou essaie de comprendre les choses aussi.
C'est aussi un encouragement et une discipline. Il est question de cœur, de l'âme et des pensées, c'est une discipline. Et on ne peut pas tout comprendre, c'est pour ça qu'il surpasse toute intelligence. Il faut se faire confiance au Seigneur, même si on ne comprend pas.
Mm-hmm. Oui.
Je trouve que ne vous inquiétez de rien, ça ne peut pas être même presque dur dans le sens. C'est des situations où on se dit que c'est légitime de s'inquiéter, mais que, à la lumière de la paix de Dieu, nos inquiétudes, même les plus légitimes, elles deviennent rien par rapport à cette paix.
C'est bien ce que tu dis. Alors, comment on peut savoir que l'anxiété est devenue, comment dire,
un péché
ou quelque chose pathologique, j'aime pas trop le mot. Ça veut dire quoi pathologique?
Maladie.
Et ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un test? Ça veut dire qu'on peut analyser physiologiquement? Oui, mais quand on utilise le mot pathologique, ça implique le modèle médical, qu'il y a un test qui diagnostique. Où est ce...
C'est les symptômes. Ça dépend aussi de la pathologie chez quelqu'un. Ça dépend forcément chez une personne, ça dépend comment on le gère. Dire pas quand on dit que ce plat, ça réglette... C'est comme, par exemple, nous, en kiné, on utilise l'échelle de la douleur.
Oui.
L'échelle de la douleur ne sera pas la même chez vous.
Oui, je suis kiné de formation.
Ah, voilà.
Oui,
non, mais bien, ce truc.
Ouais, bon, mais quand même, le mot pathologique, ça définit pour moi plus, ouais. Mais alors, d'après vous, c'est quand que ça, l'anxiété, parce qu'on peut dire que l'anxiété, il y a une bonne anxiété aussi, ce qui est utile, si je traverse la rue, il y a des voitures, je fais attention, ou mon enfant traverse la rue et voilà, je suis anxieux pour l'enfant. Et donc ça c'est normal et c'est une bonne chose, mais c'est quels sont les symptômes ou un peu les critères qu'une anxiété est devenue malsaine? Oui.
Je pense que quand sur l'anxiété, comme tu dis, devient malsaine, c'est que c'est le moment où c'est que ça prend toute la place. On va dire que ce soit psychique, soit physique, que ce soit, que ça prenne même, bon, je vais aller peut-être très loin, même au niveau de notre vie spirituelle.
Oui,
on
tout
est
à fait.
Anxieux, mettons, pour une ou des situations, mais si on a une situation où c'est qu'on est anxieux en permanence, c'est que là, on a ce problème, mm-hmm. et ça prend ça.
On est dominé. On n'arrive plus à dormir. On ne peut pas se concentrer. On est décivilisé. Oui. Donc là, il y a un vrai problème et c'est déséquilibré. C'est vraiment dominant dans la vie quotidienne et ça peut être grave dans la vie quotidienne. Et c'est souvent une habitude qu'on a appris.
Mon frère tout petit est anxieux. Il est arrivé à 75 ans. Il fait toujours le choix alors qu'il était plus heureux de bon. Il s'est jeté sous le train. Alors,
j'ai un père qui est mort.
Oui.
Parce qu'on devient ce que l'on pense.
C'est important. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'anxiété en soi n'est pas mauvaise. Jésus a été anxieux dans le jardin de Gethsémané. Il a eu des angoisses. Et Jésus n'a jamais péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait de son angoisse?
Il a eu la joie.
Mais au moment où il a été anxieux, il est allé devant son Père, il a prié, et il a fait ce que nous dit Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins. Dieu a répondu à son besoin, il a envoyé un ange qui s'est manifesté, qui l'a encouragé. Et ça, c'est important.
Mais il a quand même demandé à ce qu'elle fasse soin de lui.
Si c'était possible, voilà.
Oui.
Bien sûr.
Il a exprimé quand même son désir premier.
Ah oui?
Dans son humanité.
Oui. Bien sûr. Mais personne n'a envie de souffrir d'anxiété. Enfin, personne n'a envie. Le Seigneur, premièrement, et je crois qu'on est...
Il y a la notion de combat quand
même. Oui. C'est le seul endroit. Attendez.
Je trouve que ce passage nous amène beaucoup à se décentrer, en fait. Et souvent, ça peut être un petit peu un des problèmes, mais c'est pour ça que là aussi, enfin, en parler aussi autour de nous, ça nous aide à nous décentrer. Ça n'était pas vraiment dedans, mais vraiment, tout ressemble à chaque chose.
Oui, tout à fait. Nos propres pensées peuvent nous mener très loin, dans les lieux très sombres. Et quand je peux dire que moi, des fois, je suis ma pire ennemie si je passe trop de temps seule. Dans cette idée d'être seule, la solitude, c'est bon pour un moment, mais après, pour moi, ça devient destructif. Et on a besoin, Dieu nous a créés pour être entourés avec les autres, les frères et les sœurs, pour nous aider, pour nous encourager, pour nous confronter quand c'est nécessaire. Donc, c'est important. Donc,
il y a une femme de Dieu qui s'appelait Corinne Ten Boom, qui était dans un camp de concentration à Buchenwald. Et elle s'est demandé comment sortir de son angoisse en s'occupant des autres. Et sans problème, elle a commencé à décentrer d'elle-même en son cœur.
Oui.
Et dans des situations durables.
Ok, donc on a vu dans Philippiens 4, l'anxiété est reconnue comme une réalité, mais qu'elle est abordée par un processus spirituel. La prière, la reconnaissance, le renouvellement de la pensée. Et c'est la paix qui est donnée par Dieu, et c'est pas produit par nous-mêmes en faisant c'est d'abord un don de Dieu. Et on va regarder le dernier... deux versets, Proverbes 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur sa sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanirait ses sentiers. Alors, comment ces deux versets nous parlent de l'anxiété? Est-ce qu'il y a des bons conseils dedans? Se méfier de soi-même, oui. Oui, de ne pas, ce mot confiance est clé. Dans la vie chrétienne, c'est pas naturel de se confier à Dieu, parce qu'on est pécheur, mais c'est ça ce que Dieu nous demande de nous, de lui faire confiance.
Nous sommes notre propre ennemi.
Mm-hmm. Oui. Notre anxiété est souvent liée à l'appui excessif sur notre propre compréhension, plutôt qu'à une confiance entière en l'Éternel. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Ok. Ok, je vais sauter un peu les facteurs physiques ou situationnels qui pourraient déclencher ou jouer l'anxiété. Vous avez des idées?
Un mauvais dosage, par exemple, quelqu'un qui a le problème de la thyroïde.
Ah oui.
Il est mal dosé, c'est un traitement, il peut être suicidaire. Et
oui, problème physique, physiologique ou médicament, oui. Oui.
Dans le sens inverse, ça va être euphorique.
Oui, il y a des effets secondaires qui, les médicaments qui peuvent produire l'anxiété. La fatigue, aussi, le stress. Quoi d'autre?
La peur de mourir face au cancer, par exemple.
Peut-être c'est plutôt les idées, la peur, parce que là, qu'est-ce qui influence, et c'est peut-être, ça peut être lié avec un mauvais souvenir, ou on n'est pas prêt spirituellement, on est...
Je pensais au traumatisme. Mm-hmm. Une personne qui était régulièrement anxieuse le samedi soir parce qu'elle avait été régulièrement battue le samedi soir étant enfant.
Oui.
Être une
Oui, j'accompagne une femme qui était brûlée par sa maman en était enfante pour être punie. Elle voyait sa maman prendre une casserole, le remplir avec l'eau et le faire chauffer. Et elle a dû attendre pour que ce soit assez chaud pour que sa maman plonge sa main dedans. Elle faisait ça assez régulièrement. Donc elle est aujourd'hui terrifiée de l'eau. Elle avait du mal à prendre une douche. Elle a mon âge. Et le traumatisme est grave depuis son enfance. Et voilà, elle a été baptisée il y a 2 semaines. Dieu a fait un travail incroyable dans son cœur. Et oui, mais elle avait l'anxiété terrible depuis des années. Donc cette transformation, Dieu l'a fait. Oui, mais même en écoutant l'eau couler, ça l'a mis dans un état anxieux. Donc l'anxiété aussi peut être provoquée par un surcharge de responsabilités, manque de sommeil, des événements, on avait parlé de traumatisme, stress prolongé, fatigue.
Burnout.
Oui. Donc il y a plein de raisons, plein de possibilités.
On n'a pas évoqué aussi le mauvais choix, de mauvais choix moraux, de mauvais choix de,
oui.
De vie. Bon, les conséquences se payent.
Tout à fait.
Oui. Ils doivent continuer à être encaissés, même s'il y a combien de temps.
Même si on peut tromper tout le monde, mais nous on le sait. Et ça, c'est un trouble dans le cœur qui persévère. Oui.
Et moins d'influence.
Oui. J'allais dire que l'éducation à la maison, ce qu'on a vu nos parents. Pratiquer ou vivre, ça nous influence aussi. Une maman anxieuse va influencer ses enfants directement. Donc, les enfants vont grandir avec ses réactions. Voilà. Donc, c'est important d'être conscient de ça aussi et de réfléchir. Ok, il me reste 5 minutes. Alors, quels exemples avons-nous dans la Bible où Dieu il tient en compte de l'épuisement physique tout en continuant à parler au cœur? Des exemples où le soin du corps et l'exhortation spirituelle ne s'excluent pas. Donc.
Comme Jésus emmène ses apôtres en repos.
Oui, venez à l'écart dans un lieu désert et vous reposez-vous un peu. Oui. Oui, tout à fait, Élie. Oui. David aussi. J'aime beaucoup David. Les descriptions de tant que je me taisais, mes os s'est consumé. C'est ça aussi la puissance de la confession aussi. Donc le réalignement de son cœur devant Dieu, le corps et le cœur est tellement lié.
Salut.
Beaucoup de oui, proverbes aussi. Ok.
Il parlait beaucoup de repos dans la Bible.
Oui.
Le vrai repos.
C'est vrai. Le repos de Dieu, le repos de l'âme. Oui.
Lui, on est beau, c'est shalom.
Oui. Donc. Donc, quand on considère la Bible comme autorité principale, l'anxiété n'est plus seulement quelque chose à gérer, mais un lieu où Dieu agit. Il enseigne et il fortifie notre foi. Donc, comment les textes cités, par exemple, aujourd'hui, ils recentrent-ils l'espérance pour nous?
C'est l'antidote de la peur.
Donc pour résumer, c'est vraiment on renouvelle nos pensées, notre intelligence, notre perspective. L'anxiété, on a tendance à regarder horizontalement mes problèmes, mes situations, mais quand on prend le regard vertical vers le Seigneur, ça change tout. Donc l'orientation de nos pensées, de notre perspective de la situation ou des situations, ça apporte la paix là où il y a l'anxiété.
Tout est rassemblé par une promesse. Jean 3,16. Ça veut dire que le monde va donner son fils.
Amen.
Il y a une volonté aussi, une pensée.
Oui, c'est actif, c'est pas quelque chose, on n'est pas passif, on est vraiment actif et engagé. Oui. Donc, pour conclure, la foi chrétienne ne nie pas l'anxiété, mais elle refuse qu'elle soit l'autorité ultime. Elle offre une lecture plus profonde du cœur, une espérance plus solide et une paix qui garde le cœur, même lorsque la lutte de l'anxiété persiste. Voilà, j'espère que ça a été utile. Merci pour vos réponses. Vous étiez bien engagés.
C'est dans la vie chrétienne, on n'est pas seul.
Amen.
Oui. Merci pour votre attention à tous. Que Dieu vous bénisse richement.